Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 14 septembre 2023. En direct de Washington, Idrissa Seboudia. Pour commencer, les titres. Au Burkina Faso, le médecin anesthésiste réanimateur Haruna Louré, embarqué hier par des militaires. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, président de la transition, relance les enquêtes sur les marchés publics. Le président français Emmanuel Macron et son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra retissent des liens après des années de brouille. En Libye, un bilan provisoire de plus de 3800 morts dans les inondations. Paysage apocalyptique à Derna. Au Maroc, le dernier bilan du séisme de vendredi s'établit à près de 3000 morts. Le président Vladimir Poutine a accepté une invitation de Kim Jong-un à se rendre en Corée du Nord après leur sommet en Russie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Donc au Burkina Faso, des militaires armés ont embarqué hier, mercredi, le médecin anesthésiste réanimateur Haruna Louré, très critique envers le pouvoir, dans un des hôpitaux de Ouagadougou. L'information est révélée par la radio locale Radio Omega, citant plusieurs sources proches du médecin de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Selon la station locale Radio Omega, plusieurs pick-up et des militaires bien armés ont fait irruption à l'hôpital Chifra de Ouagadougou où se trouvait le médecin Haruna Louré pour des soins à des patients, pour l'embarquer. Ils sont arrivés sans aucun mandat et l'ont embarqué de force, précisent les témoins de la radio qui poursuivent qu'il a pu juste échanger quelques mots avec sa femme et a ensuite été embarqué dans un véhicule V8 de couleur noire vers une destination inconnue. Radio Omega avait annoncé mardi que le médecin anesthésiste réanimateur dont la réquisition pour un mois devait commencer le lundi 11 septembre pour Koumbri dans un premier temps et Waiguia par la suite dans le nord était toujours à Ouagadougou. Selon la radio, entre jeudi et vendredi dernier, le médecin avait fait renvoyer deux réquisitions du chef d'état-major général adjoint des armées, le colonel Moussa Diallo, pour complément d'information. Il était depuis lors en attente de savoir où et quand il devait se présenter quand il a été embarqué ce mercredi. Depuis plusieurs mois, l'ancien député sous le lieutenant-colonel Damiba est très critique vis-à-vis de la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les présidents français Emmanuel Macron et centrafricain Faustin Archange Touadéra ont échangé hier à l'Élysée sur la situation en Centrafrique et la relation bilatérale, marquant leur volonté de retisser des liens après des années de brouille. Ils ont convenu de continuer à œuvrer ensemble pour la souveraineté, la stabilité et la conduite du dialogue positif et inclusif en République centrafricaine, a indiqué l'Élysée dans un communiqué. La France a dénoncé ces dernières années l'emprise croissante du groupe de mercenaires russes Wagner en République centrafricaine, l'accusant d'exactions et de pillages des ressources naturelles, tout en affirmant ces derniers mois sa volonté de relancer la relation avec Paris. Le président Touadéra a expliqué que son partenariat avec la Russie était appelé à se poursuivre. L'avenir de Wagner est toutefois en suspens en Afrique depuis la mort de son chef Evgeny Prigogine au mois d'août. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo Ondimba en accusant son régime de détournement massif, a annoncé hier une commission d'enquête sur les marchés publics pour traquer les fraudes. Le point avec Michel Joseph.
Le président de la transition a décidé de réactiver la task force pour vérifier de l'ensemble des marchés publics. Le pays nécessite une évaluation minutieuse et rigoureuse des marchés publics afin de détecter toute irrégularité ou fraude potentielle, a déclaré le général Oligui. Au lendemain du putsch du 30 août, il avait sommé les patrons qui pratiquent la surfacturation de stopper ses manœuvres dans les passations de marchés publics dans un discours devant 200 à 300 chefs d'entreprise gabonaises convoqués à la présidence. Quelques jours plus tard, il a critiqué ouvertement des centaines de cadres du secteur public en leur disant « Venez de vous-même restituer les fonds détournés, sinon nous viendrons vous chercher et vous verrez la différence ». Le jour même du coup d'État, les militaires ont arrêté l'un des fils du président déchu, Noureddine Bongo Valentin, et 6 autres anciens membres de la jeune garde. Les perquisitions à leur domicile, retransmises par la télévision d'État, les montrant au pied de malles, valises et des sacs débordant de liasses de billets de banque.
En République démocratique du Congo, l'ex-chef du parti présidentiel, Jean-Marc Kabound, poursuivi pour outrage au chef de l'État, a été condamné à 7 ans de prison selon sa défense. La Cour de cassation a jugé que toutes les infractions pour lesquelles M. Kabound a été poursuivi sont établies, a déclaré hier maître Kadi Ditou. La Cour a fait un cumul de peines et l'a condamné à 84 mois de servitude pénale, l'équivalent de 7 ans de prison, a ajouté l'avocate. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ordonné mercredi la mise en place de camps dans l'ouest de son pays pour abriter les survivants des inondations dévastatrices en Libye voisine, selon le site du quotidien Al-Ahram. Les autorités libyennes ont fait état de plus de 3 800 morts et des milliers de disparus à la suite d'inondations dévastatrices qui ont frappé dimanche la ville de Derna dans l'est de la Libye. Et le bilan devrait s'alourdir, voire doubler, d'après un ministre de l'administration régionale, Nanit Talani.
La mer déverse en continu des dizaines de corps, a déclaré Hichem Abou Chekouyat, ministre de l'aviation civile de l'administration basée dans l'est de la Libye, ajoutant que la reconstruction coûtera des milliards de dollars. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montre des routes ensevelies sous la boue, des bâtiments effondrés, des ponts emportés par des glissements de terrain. La ville de Derna n'est plus accessible que par 2 entrées sur 7 habituellement. Des pannes d'électricité généralisées et des perturbations du réseau téléphonique limitent les communications. Selon l'OIM, au moins 30 000 personnes qui vivaient dans cette cité de 100 000 habitants ont été déplacés et les incertitudes demeurent sur le nombre exact de victimes à cause du nombre important de disparus. Les autorités craignent que le bilan définitif des inondations ne soit beaucoup plus lourd devant l'ampleur des dégâts et la difficulté de faire parvenir les secours.
Au Maroc, les secouristes ont intensifié mercredi leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés par le violent séisme qui a fait près de 3000 morts. Mais les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent après la catastrophe de vendredi dernier. Le tremblement de terre qui a frappé une région du Haut Atlas, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, a fait 2946 morts et 5674 blessés, selon un dernier bilan officiel mercredi soir. En Ouganda, la police a annoncé mercredi qu'elle suspendait jusqu'à nouvel ordre une campagne nationale de mobilisation lancée par le principal parti d'opposition dirigé par Bobi Wine en raison de troubles à l'ordre public. Les autorités avaient autorisé cette opération lancée le 2 septembre par la plateforme d'unité nationale, une décision inédite dans ce pays dirigé d'une main de fer depuis 1986 par le président Yoweri Museveni et où l'opposition est sévèrement contrôlée.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Face à la multiplication des crises que subit l'humanité, le secrétaire général de l'ONU a appelé hier les dirigeants du monde qui seront réunis la semaine prochaine à New York à trouver, je cite, une solution pour sortir du pétrin. Jean-Roger Bion.
Nous allons nous réunir à un moment où l'humanité fait face à d'immenses défis, de l'aggravation de l'urgence climatique à l'escalade des conflits, en passant par la crise mondiale du coût de la vie, la montée en flèche des inégalités et les bouleversements technologiques spectaculaires, a déclaré Antonio Guterres à la presse à quelques jours de l'Assemblée générale de l'ONU, où des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Le chef de l'ONU s'est toutefois montré une nouvelle fois pessimiste sur la possibilité de négociations pour la paix en Ukraine. « Nous sommes loin d'une situation où cela serait possible », a-t-il constaté, assurant qu'il se concentre sur l'espoir d'une relance de l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire. La Russie s'est retirée en juillet de cet accord, affirmant que l'accès au marché mondial de ses propres produits agricoles et engrais était entravé par les sanctions occidentales.
Le président russe Vladimir Poutine a accepté de se rendre en Corée du Nord sur l'invitation de son dirigeant Kim Jong-un. Pour l'heure, rien n'a toutefois été communiqué officiellement concernant un éventuel accord pour des livraisons de matériel militaire à la Russie afin de soutenir son offensive en Ukraine, une préoccupation de Washington. La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Congo-Brazzaville, les conducteurs des taxis et bus, membres de l'intersyndicale des transporteurs en commun, veulent discuter avec le gouvernement des mesures d'accompagnement suite à la hausse des prix du carburant et la recrudescence des tracasseries policières. C'est ce qui ressort de leur assemblée générale du 8 septembre. L'Égypte veut établir un complexe industriel pour produire de l'acier plat avec $1 milliard d'investissement. Le projet, approuvé par l'autorité du canal de Suez, peut produire 1,8 million de tonnes métriques de l'acier plat par an. Il visera les exportations mondiales et desservira le marché local. Pour terminer, la société britannique Tullow Oil a réduit ses prévisions de production pour 2023 à 60 000 barils par jour contre 64 000 barils par jour à cause d'une production plus faible que prévue au Ghana, de son champ Jubilee au premier semestre et au calendrier de démarrage de l'extension Jubilee South East au second semestre.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouidraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Un tournoi pour permettre de repérer de jeunes talents à Goma, dans l'est de la RDC.
Oui, ce tournoi appelé Future Pro League met en compétition des jeunes footballeurs de moins de 20 ans, leur offrant une chance d'être repérés par des clubs internationaux. Une occasion unique dans cette région affectée par des conflits depuis près de 30 ans. Les détails avec Mohamedou Oumfa.
C'est avec son pied gauche qui va l'exécuter.
Ici à Goma, le football est peut-être plus qu'ailleurs un facteur de paix et d'unité. Le temps d'une compétition, l'on oublie la violence qui déchire la région. Pour y repérer des talents, Hugo Kasuku, fondateur de l'Académie de football Gaulle, organise la première édition de la Future Pro League.
En fait, ça faisait déjà un petit temps que je voulais que ces enfants aient une voie de sortie, parce que quand tu les entraînes tous les jours et que tu dois leur inculquer des valeurs, etc., à un moment donné, le discours peut arriver à épuisement si on n'a pas de réelles opportunités pour eux.
À l'invitation du Bokasiku, trois dénicheurs de talents sont venus s'asseoir dans les gradins du Stade de l'Unité, dans le centre de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Parmi eux, Distel Zola, ex-international congolais, et représentant de l'AS Monaco.
Ouais, moi, je suis très heureux parce que il y a quelques années, j'étais à leur place. J'ai eu la chance d'être recruté par l'AS Monaco, de faire ma carrière. Donc, ce genre de tournoi, ce genre d'événement, ça leur donne aussi des rêves. Et nous aussi, on est là pour leur donner les outils pour qu'ils puissent se projeter.
Devant des recruteurs de l'AS Monaco, du Hertha Berlin d'Allemagne et du KAA Gent de Belgique, les jeunes Congolais de Goma veulent briller pour avoir une chance d'intégrer les championnats étrangers.
Mon objectif, c'est d'être d'abord professionnel. Je rêve un jour d'aller jouer en Europe, même en Asie. C'est ça d'abord mon objectif. Et quand on commence à amener de telles opportunités, voilà, pour nous, c'est une très bonne chose.
L'Académie de football Gaulle, qui organise le tournoi, accueille aujourd'hui entre 150 et 200 apprentis footballeurs venus de tout l'Est. Et au-delà du sport, elle veut former des jeunes citoyens congolais avec des qualités qui aideront le pays à surmonter ses difficultés.
Merci Mohamedou.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, la ville de Tombouctou subit depuis août un blocus instauré par un groupe djihadiste. Les vols de la compagnie aérienne Sky Mali vers cette ville ont été annulés en raison d'une attaque près de l'aéroport de la ville. Eric Manera Kinza a joint Alousseini Aladj, notre correspondant sur place.
Les récentes attaques ont véritablement marqué les esprits. C'est la première fois que la ville de Tombouctou reçoit en l'espace d'un mois au moins 3 tirs d'obus avec une fillette décédée et quelques blessés. Également, l'attaque du bateau également a marqué les esprits avec une centaine de morts et 400 et quelques rescapés. Et aujourd'hui, c'est une véritable psychose que ces attaques ont créée chez les populations. Alors, les autorités ont décidé depuis ce lundi 11 septembre de décréter un couvre-feu qui va de 20h à 6h du matin. Donc, ce couvre-feu doit durer un mois et si les choses ne changent pas, il sera en tout cas reconduit jusqu'à ce qu'on retrouve une certaine stabilité dans la région de Tombouctou.
Alors, les attaques récentes, notamment celles contre le bateau sur le fleuve Niger, ont-elles suscité des réactions ou des mesures de sécurité particulières de la part des autorités locales ou de la population?
Ce blocus est un véritable supplice pour la population de la région de Tombouctou. Rien qu'à prendre l'axe Goundam-Tombouctou, distant d'environ 90 km, sur cet axe, les passagers ne peuvent pas voyager avec des marchandises et autres bagages. Donc, les chauffeurs ne prennent que les passagers et également les camions et autres véhicules qui essayent de transporter d'autres marchandises. Soit on leur demande de retourner avec ces marchandises ou tout simplement de les laisser là où les groupes armés les ont appréhendés. Et également, on sait que l'essentiel des denrées de première nécessité viennent des pays voisins comme l'Algérie, la Mauritanie. Et depuis un moment, un chef djihadiste a demandé à ce que ces éléments bloquent ces accès-là. Et on se rappelle également qu'un camion qui a essayé, en tout cas, d'enfreindre ces instructions, le camion a tout simplement été brûlé avec tout son contenu.
Ali Ousseini, comment évaluez-vous la situation humanitaire dans la région compte tenu de l'isolement croissant de Tombouctou et de Gao? Y a-t-il des organisations humanitaires ou des efforts en cours pour aider les personnes affectées par cette crise?
Il faut dire que cette situation devient de plus en plus intenable, des accès bloqués. Aujourd'hui, certaines personnes ont peur de voyager par voie fluviale avec ce qui s'est passé. Sky, la compagnie aérienne également, a décidé de suspendre ses vols sans pour autant donner une nouvelle date de la reprise de la desserte. Plusieurs acteurs ou organisations humanitaires ont multiplié des réunions pour venir en aide à ces populations touchées par cette crise. En ce qui concerne les rescapés de l'attaque du bateau aujourd'hui, au nombre de 400 et quelques des organisations, associations et même des structures de l'État sont en train de s'organiser également pour leur venir en aide. Plusieurs associations ont ouvert des cagnottes à travers lesquelles on va aider les rescapés à surmonter cette épreuve. Et même certains ont décidé quand même d'apporter un appui psychologique social à ces rescapés-là.
Alousseini Aladj, correspondant de VOA Afrique à Tombouctou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Burkina Faso, depuis 2015, la région de Bobo-Dioulasso, qui a longtemps été préservée, ressent désormais les effets de la crise sécuritaire. De nombreuses activités économiques sont au ralenti et les échanges entre la ville et les départements voisins sont bloqués. Un reportage de notre correspondant Alidou Ouedraogo à Bobo-Dioulasso.
Le marché des fruits et légumes de Bobo-Dioulasso est le point de départ ou de convergence de produits agricoles de la région. L'insécurité qui commence à toucher la région fait déjà des dégâts. Des centaines de camions sont immobilisés.
Tout le business est foutu. L'insécurité nous bloque. Souvent, nous faisons un mois à tourner ici sans rien faire.
Ousmane Sila transportait de la patate de Orodara à Bobo Dioulasso. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire.
Nous transportions de la patate, des tomates et autres à Orodara, ici Kasso. Maintenant, ce n'est plus le cas.
Réputée ville commerciale, fruits et légumes, les habitants ne veulent pas voir Bobo Dioulasso perdre ce statut. Léa Sanou est une vendeuse de légumes.
Toutes ces difficultés d'approvisionnement nous amènent la chèreté des produits. Ce qu'on achetait à 5 000 francs, il faut aujourd'hui débourser 12 000 ou 15 000 francs pour l'avoir. Des fois, nous vendons à perte.
Il y a une autre réalité. La compagnie Sahel Voyage dessert toute la région du Sahel. Aujourd'hui, toutes ces lignes sont à l'arrêt, laissant la gare dans un piteux état avec des travailleurs au chômage. Soumaïla était bagagiste.
Nous avons arrêté, ça fait 6 mois. C'est ici qu'on gagnait nos vies. C'est un drame.
À l'instar de ces activités, beaucoup d'autres domaines sont en train de fermer boutique à cause de la montée de l'insécurité dans le Grand Ouest. À Bobo Dioulasso, la correspondance de Alidou Ouédraogo.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En République démocratique du Congo, selon un rapport d'Amnesty International, l'expansion des mines industrielles de cobalt et de cuivre a entraîné l'expulsion forcée de populations et autres graves atteintes aux droits humains, notamment des agressions sexuelles, des incendies. Eddie Isango a joint à Kinshasa Jean-Maubert Senga, chercheur pour Amnesty International.
Nous montrons dans ce rapport qui a pris 2 ans que des entreprises minières ont souvent, avec la complicité ou sous le regard indifférent des autorités congolaises, mené des expulsions forcées de plusieurs centaines, peut-être même des milliers de personnes de leurs champs, de leurs villages. Souvent sans information préalable, sans consultation adéquate et sans compensation, ou lorsque les compensations ont été payées, c'était des compensations insuffisantes qui ne permettent pas à ces familles et à ces communautés de se réinstaller dans d'autres zones et de mener une vie au moins égale ou meilleure à celle qu'ils menaient avant les expulsions.
Vous parlez d'agressions sexuelles et d'autres violations des droits de l'homme qui accompagnent cette expansion de mines industrielles du cobalt et du cuivre. Qui commettent ces violations?
Alors, il y a toute une série de violations autour de ces expulsions forcées. D'abord, la plus répandue, c'est évidemment le fait de chasser les gens de leur terre, de leur maison, de leur champ, sans compensation adéquate. Mais dans ce processus, il y a eu parfois des actes de violence commis par les forces de sécurité, de la police, l'armée congolaise, en complicité avec des agents de certaines entreprises. Et puis, lorsque des membres de ces communautés concernées ont organisé des sit-ins, des manifestations, ou essayé de revendiquer auprès des autorités ou des entreprises, souvent, leurs manifestations ont été réprimées violemment par les forces de sécurité, résultant dans certains cas de blessures, mais également des cas d'agression sexuelle auxquels vous faites allusion, où des femmes essayant de se rendre dans leur champ dont elles ont été expulsées ont été agressées par des militaires de l'armée congolaise, malheureusement en toute impunité.
En réponse à ce que vous dites, la GECAMINE, mais aussi les industries chinoises dont vous parlez dans votre rapport, répondent qu'ils adhèrent à des normes éthiques pourtant.
Ça, c'est ce qu'elles disent sans surprise. Toutes les entreprises ont une stratégie de marketing qui veut les montrer comme des bons élèves en matière de droits humains. Mais malheureusement, sur le terrain, ce que nous avons constaté et ce qui est rapporté avec de très nombreux témoignages, d'autres preuves, c'est que ce n'en est rien, en tout cas pour la plupart de ces entreprises. Donc il y a un décalage énorme entre les discours, les beaux textes qu'ils mettent sur leur site internet pour la promotion de leurs investissements et les actes qu'ils posent sur le terrain et dont les victimes ont témoigné auprès de nous.
Jean-Maubert Senga, chercheur à Amnesty International.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la gestion des catastrophes naturelles à la lumière du séisme qui a secoué le Maroc. Alors que le pays compte encore les victimes de ce deuxième séisme le plus meurtrier de son histoire, l'année 2023 a déjà connu des tremblements de terre meurtriers en Turquie et en Syrie. Quels sont les risques sismiques en Afrique? Quel est le niveau de préparation des pays dans la gestion des catastrophes naturelles? Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Ici à Washington, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a demandé mardi l'ouverture d'une enquête en vue d'une éventuelle mise en accusation du président Joe Biden. Les républicains accusent Joe Biden d'avoir tiré un avantage financier des affaires de son fils Hunter Biden à l'étranger. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, fait le point. Le récit est de Jean-Roger Bion.
Après des mois d'enquête, les commissions républicaines de la Chambre des représentants vont maintenant travailler sur la mise en accusation du chef de l'État en vue de son éventuel procès devant le Sénat. Kevin McCarthy est le président de la Chambre.
Grâce à nos enquêtes, nous avons découvert que le président Biden a menti au peuple américain au sujet de sa propre connaissance des transactions commerciales de sa famille à l'étranger.
L'annonce de McCarthy intervient après des mois de pression de la part des conservateurs de la Chambre des représentants, le député républicain Scott Perry.
Je pense que n'importe quel citoyen qui serait confronté à ce que l'on reproche maintenant au président serait déjà au tribunal.
Les démocrates affirment que les républicains n'ont pas apporté la moindre preuve des malversations supposées de Joe Biden après des mois d'enquête au cours desquels des dizaines de milliers de documents ont été remis aux enquêteurs. Écoutons le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.
The impeachment inquiry is absurd.
L'enquête pour la mise en accusation est absurde. Les Américains veulent que nous fassions quelque chose qui améliore leur vie, pas que nous nous lancions dans des chasses aux sorcières.
Les Républicains détiennent une très faible majorité à la Chambre des représentants avec seulement 5 sièges de plus que les démocrates. Michael Turning du Centre de politique bipartisane.
Il est également possible que ces articles de mise en accusation ne parviennent jamais au Sénat. Avec une faible majorité, il n'est pas certain que les républicains puissent franchir la ligne d'arrivée. Ils ne peuvent certainement pas compter sur le soutien des démocrates. Ils doivent donc vraiment s'accrocher à chacun de leurs membres. Et s'ils perdent seulement 5 d'entre eux, ils ne pourront pas l'adopter.
Certains républicains ont exprimé leur inquiétude quant à la poursuite d'une enquête en destitution à l'approche de l'année électorale en 2024. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a déclaré par le passé que la procédure en destitution devrait être rare, a refusé mardi d'en dire davantage.
Nous avons les mains pleines ici en essayant de voter les allocations budgétaires.
L'annonce de l'enquête survient avant un bras de fer entre le Capitole et la Maison-Blanche, les législateurs devant trouver un accord avec M. Biden pour que le gouvernement reste ouvert à la fin de l'année budgétaire le 30 septembre. En cas de fermeture du gouvernement, les commissions de la Chambre des représentants ne pourraient pas travailler sur l'enquête en question.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Inris Asseloudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.